RCF. Bonsoir à toutes et à tous, 18h10, on est ensemble pour une cinquantaine de minutes vous accompagner ce vendredi soir, le dernier 18-19 en Champagne-Ardenne de la semaine. Nos stagiaires à la rédaction nous accompagnent jusqu'au bout du bout, c'est la der pour eux. Ils sont fatigués en cette fin de journée, en cette fin de semaine, en cette fin de stage. Elsa Gillot est avec nous, bonsoir Elsa.
Bonsoir à tous, bonsoir Alexis.
On vous retrouvera tout à l'heure, notamment pour la page météo. Mais avant la page météo, il y aura l'agenda des sports, c'est avec Pierre-Louis Plouvier qui est là, qui finit lui aussi son stage de 3e. Pierre-Louis, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
D'habitude, elle nous écoute à travers le poste. Ce soir, elle fait une petite folie. Elle est là, elle est en direct avec nous. Vous l'avez entendu dans sa chronique 240 secondes hier. Suzanne Joss, étudiante à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir à tous.
Ça te fait plaisir d'être avec nous
ça
comme ça?
Ça me fait super plaisir.
Au programme ce soir, la crise de l'agriculture européenne, une impasse structurelle. C'est l'objet de la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen. C'est dans quelques secondes. Un maire qui nous parle, Franck Bailly. Il est le maire de Cerzy-et-Prins, cette belle commune de la Marne. Juste après quoi, il y aura le journal régional. En deuxième partie d'émission, c'est le temps des rencontres, notamment avec Josiane Anneau de la troupe cézannaise Amis en scène, qui organise une nouvelle tournée dans le sud-ouest marnais. Nous serons également avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Mais avant tout cela, on ira faire un tour du côté de l'église de Givry en Argonne pour évoquer les travaux successifs depuis 2001 de l'église Saint-Laurent. Voilà pour le sommaire de cette émission. Comme tous les vendredis, on débute par la chronique d'actualité que l'on présente avec le professeur Jacques Cohen, qui est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Et ça fait maintenant quelques jours qu'avec nos différents chroniqueurs, on fait un panorama de l'agriculture française et de la crise que traversent les agriculteurs français. Jacques Cohen, si l'on fait une photographie à votre manière, que faut-il retenir de cette crise actuellement?
Que ce n'est pas une crise conjoncturelle et que les agriculteurs se réveillent très tard. Ils se réveillent très tard parce qu'ils n'ont pas compris ou n'ont pas voulu croire à l'inimaginable, c'est-à-dire que les instances européennes, mises en branle par les écologistes, veulent leur peau, tout simplement. Ils imaginent une agriculture rousseauiste qui ferait le tiers à la moitié en moins de l'agriculture actuelle en Europe et qui produirait des pommes bio et autres plaisanteries. Car c'est pas bien sûr une agriculture permettant de nourrir les Européens et encore moins la population du globe. Les États principaux, c'est-à-dire les pays riches, ou entre guillemets, en Europe, n'ont pas cru que ça présentait un problème, eux-mêmes travaillés par l'idéologie écologique, dont je veux dire tout de suite qu'elle n'est pas scientifique. C'est une secte, c'est un raisonnement archaïque, rétrograde, réactionnaire, qui d'ailleurs, ça va choquer du monde, plonge ses racines dans l'idéologie nazie. Les nazis aussi étaient pour le retour à la sainte nature primitive, avec ses forces, etc. Alors, à quoi sont confrontés les agriculteurs d'Allemagne, de Hollande, de France, et dans une moindre mesure dans les autres pays, par exemple la Roumanie ou la Pologne. Ils sont confrontés à un plan européen qui s'appelle du champ à la fourchette, où on explique qu'il faut arrêter les intrants, qu'il faut arrêter les pesticides, qu'il faut arrêter d'avoir des champs de grande taille et mettre des haies en travers, en permanent partout, et moyennant quoi, on va réduire la production, mais elle sera beaucoup plus jolie, beaucoup plus agréable, etc. Pour une culture de luxe, à la rigueur, ça va, mais malheureusement, l'Europe n'est pas faite uniquement de bobos pour se payer une agriculture de luxe. Si on rajoute en prime que les principaux États ont accepté les accords de libre-échange en considérant l'agriculture comme une variable d'ajustement et qu'on pouvait faire des cadeaux de politique étrangère sur le dos des agriculteurs, on s'aperçoit que ceux-ci ont le couteau sous la gorge et c'est maintenant donc qu'ils se réveillent et on tombe en plus dans une période qui ne va pas permettre de résoudre la crise de la façon habituelle. La façon habituelle, c'est que quand il y a une crise, on donne quelques sous. On lâche une histoire sur le prix du gazole non routier, puis ça se calme. Le problème, c'est qu'après le Covid et puis différents cadeaux en tout genre, dans une période où l'Allemagne est en récession, et donc où nous sommes, nous, à la menace d'avoir une récession qui ne sera transmise par contamination dans les 6 mois si ça ne bouge pas, on peut plus se permettre le quoi qu'il en coûte et les cadeaux correspondants puisque l'inflation a redémarré.
Ça veut dire, Jacques Cohen, que cette fois, donner 3 sous ne devrait pas suffire?
Alors ça serait difficile à faire. Ça sera difficile à faire et d'autre part, ça risque de ne pas suffire parce que ce qui veut dire qu'il faudrait, au bout de quelques mois, continuer à rajouter au pot, pérenniser les aides, etc. et transformer les agriculteurs en mendiant, en assisté permanent, ce qui les révulse. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir travailler et de gagner leur vie en travaillant. C'est une revendication qui ne paraît pas extraordinaire. Et pourtant, l'explosion bureaucratique de la politique agricole commune, dont ils sont un peu accommodés tant qu'elle leur était favorable, devient maintenant, non pas un carcan, mais un garrot qui va les achever. Et donc, il faudrait, pour réformer tout ça, des réformes majeures de la politique européenne, à la fois de la part du Parlement et de la Commission, sous une pression des États qui devraient coordonner leur politique là-dessus. Et c'est une très très forte pression en faveur de l'extrême droite, puisque c'est déjà le cas en Hollande. Et effectivement, l'extrême droite va avoir beau jeu d'expliquer que ces conneries de Bruxelles qui tuent les paysans, si c'était nous au pouvoir, on arrêterait ça tout de suite. Et Bruxelles serait obligé de reculer, parce que dans quelques jours, le Parlement européen sera paralysé à Bruxelles ou à Strasbourg, et ainsi de suite. Et effectivement, la situation pour les agriculteurs est très grave. Je vous ai dit, ils se sont réveillés très tard, parce que personne ne croyait à la gravité de la chose. On peut prendre un ou deux exemples. On importe des produits dans des pays avec qui on a accepté des accords, qui sont produits, qui sont fabriqués, sans respect des normes qu'on impose à nos agriculteurs. Donc ceux-ci sont furieux. D'autre part, on fait des cadeaux, comme les cadeaux politiques aux Ukrainiens, lesquels s'entendent avec les mafieux de tous les pays, pour tricher. Le blé ukrainien devait partir à travers la Pologne pour aller dans le vaste monde. Il s'est en grande partie évaporé en Pologne, puisqu'il était subventionné, et ça permettait qu'il ne soit pas très cher, qui théoriquement de soi, il n'avait pas le droit d'être vendu, mais ça s'est arrangé sous le manteau. Et donc les paysans polonais ont commencé à être furieux, en se voyant ruinés par ce genre de truc. On ne remarque pas, la presse n'a pas trop insisté là-dessus, que les paysans polonais ont bloqué pendant 15 jours les convois de matériel de Pologne à l'Ukraine, pour marquer le coup qu'il ne s'agissait pas que cette histoire de blé recommence, parce que les Polonais ont été obligés d'interdire le passage du blé, qu'ils étaient incapables d'empêcher de s'évaporer. On a le même genre de cirque concernant les poulets, au bénéfice non pas de la population ukrainienne, mais d'un oligarque dont la holding est à Chypre, et donc une colossale naïveté européenne, si tant est qu'il n'y ait que la naïveté et pas un peu d'arrosage, de ruissellement, comme on pourrait dire.
Mais alors, professeur Jacquouen, ce qui change cette année dans le mouvement, dans cette révolte, c'est surtout que toutes les forces vives de l'agriculture se révoltent en même temps, finalement. C'est ce qui fait le vrai poids de ces manifestations.
Oui, alors d'une part, toutes les forces vives de l'agriculture dans chaque pays, et d'autre part, une convergence entre pays qui, s'il n'y a pas de solution rapide, va être très spectaculaire. Parce que les organisations paysannes ont compris qu'il fallait qu'elles agissent ensemble et que la cible, c'est d'obliger l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, par exemple, à faire capituler les structures de Bruxelles et à annuler les plans lancés pour des années tels qu'ils sont lancés. Il y a un enjeu aussi politique, une autre différenciation politique qui va se passer, qui va se produire. Ça concerne les écologistes. Il y a quelques types sensés chez eux, heureusement. Et puis il y a des idéologues de la décroissance. Et pour eux, il n'y a aucun problème. Il y a besoin de moins d'agriculture, puisqu'il faut décroître, être sobre, etc., et bouffer trois pommes. Et puis plus de viande. Et donc il n'y a pas besoin d'autant de paysans, il n'y a qu'à continuer à les laisser liquider, on l'a bien fait pour la sidérurgie, etc. Et ça, ça risque de conduire à un affrontement important. D'autant plus que les populistes ou les partis extrémistes de gauche et de droite ont maintenant une clientèle ouvrière, ce qui reste de milieu ouvrier, et ils vont y ajouter les paysans. Parce que autrefois, il y avait un mouvement principal, la FNSEA, et puis il y avait des organisations plutôt écolo, du genre de Beauvais et compagnie, qui étaient nettement à gauche. Et bien là, il y a un deuxième mouvement autonome, mais il n'est pas du tout à gauche. Il est en train de bouffer la clientèle de gauche qui récupérait ces mouvements contestataires d'agriculture opposés aux principaux céréaliers qui, eux, tiennent encore la FNSEA. Donc il va y avoir ce mouvement, cette recomposition politique chez les paysans. Et il va y avoir également une recomposition politique chez les écologistes. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche va avoir spontanément tendance à vouloir défendre les agriculteurs, mais une autre partie va considérer que ce sont deux dieux productivistes, et pourtant, comment voulez-vous nourrir la population du globe si vous n'augmentez pas la productivité tout en préservant l'environnement, si vous n'augmentez pas la productivité, c'est pour traîner du béaba. Et donc cela, c'est réactionnaire, je le répète, écologiste de la secte, de la religion millénariste des derniers jours de la fin du monde, ceux-là vont devenir des adversaires fermes du mouvement, et je pense qu'ils vont continuer à les agonir d'insultes dans Libération, mais qu'ils n'iront pas sur le terrain. Les paysans disposant généralement d'un bon entraînement physique et de fourches. Et donc, les excités de Sainte-Soline, par exemple, des bassines, ont assez peu de chances d'aller essayer de lever un barrage de paysans eux-mêmes. Ou sinon, ça va très mal se passer.
Eh bien, Jacques Cohen, ce que je vous propose, c'est de dire affaire à suivre. On ne sait pas si tout cela va nourrir le globe, mais ça va au moins nourrir le débat en vue des élections européennes du mois de juin. À bientôt, professeur.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h21 sur RCF, direction Cerisier-Prin avec son maire Franck Bailly qui nous parle ce soir, c'est au micro de Jean-Pierre.
Franck Bailly, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Alors on dit Cerisy ou on dit Cerisier-Prin?
Ah, j'y suis très attaché, on dit Cerisier-Prin parce que Cerisy est un joli village de la vallée de l'Indre, mais Prin est un magnifique hameau avec un superbe château.
On va découvrir avec vous votre commune de Cerisy. Combien d'habitants à Cerisy?
Donc à Cerisy, à peu près 200 habitants. À Cerisy et Prin.
À Cerisy et Prin. Alors ces habitants, on situe bien la commune. Pour nos amis des Ardennes, on sait que vous êtes en zone viticole. On imagine qu'il y a pas mal de viticulteurs dans votre commune.
Oui, il y a 7 ou 8 viticulteurs, ce qui est beaucoup pour un village de 200 habitants. Mais il y a aussi des terres agricoles et il y a aussi des bois. C'est tout l'intérêt de la vallée de l'Indre qui a un paysage très varié, très joli.
Alors c'est vrai que les habitants sont plus des viticulteurs, mais il y a quand même une petite variété. Tout le monde n'est pas viticulteur dans la commune de Cerisier-Prin.
Non. Il y a le bassin de vie à Reims et il y a quasiment moitié des actifs qui vont à Reims tous les jours pour aller travailler.
Combien de kilomètres à peu près, Franck Bailly? Une vingtaine, enfin.
Une bonne vingtaine de kilomètres.
Une bonne vingtaine de kilomètres. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler. Et vous-même, vous êtes maire depuis combien de temps, vous, Franck Bailly, à Cerisier-Prin?
Donc moi, je suis maire depuis 9 ans.
Alors avant, on imagine, c'est souvent le cas, vous avez été au conseil municipal, peut-être adjoint. Vous étiez même peut-être habitant de la commune depuis toujours. Vous êtes de là-bas, comme on dit.
Oui, je ne suis pas né à Cerisier-Prin, mais j'y ai toujours vécu, bien sûr. Et puis, j'ai été adjoint pendant 6 ans. Et après, j'ai fait une pause pour raison personnelle pendant 6 ans. Et après, donc, maire pour 2 mandats.
Alors, c'est vrai que le maire, on dit souvent, c'est un personnage qui compte. Parce que, bon, c'est le premier élu qu'on voit, qu'on rencontre. On imagine que vous connaissez quasiment tout le monde dans le village.
Ah, je connais tout le monde, oui, bien sûr. Oui.
Alors, justement, quand on connaît tout le monde, peut-être que on a tendance à vous solliciter, à vous demander, alors qu'il y a des gens qui ont plus ou moins bon caractère, il y a des gens gentils, c'est comme partout. Mais en fait, vous êtes souvent quand même sur la brèche, comme on dit. Vous avez plus de travail qu'on ne pense. On n'imagine pas le travail d'un maire aujourd'hui.
Bon, faut relativiser, c'est pas non plus insurmontable. C'est du travail, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est pas insurmontable, encore une fois. Ça va.
Alors, évidemment, maintenant, depuis quelques années, il y avait des communautés de communes, mais maintenant, il y a quand même le Grand Reims. C'est un peu familier, je le dis à chaque fois au maire. Est-ce qu'il est quand même, moi je crois que lui, quand même, le patron dans sa commune? C'est-à-dire que maintenant qu'il y a un Grand Reims, on se dit, il n'est plus tout à fait le chef du village, mais il l'est quand même.
Alors, avec le Grand Reims, il y a quand même une chose qui est très bien, c'est que le conseil municipal garde le droit de veto. Alors le droit de veto, ça veut dire que si le Grand Reims a un projet et que le conseil municipal ne le valide pas, c'est le conseil municipal qui a le dernier mot. Donc vous voyez, donc déjà, c'est déjà pas mal. Après, c'est évident que le travail du maire a changé. On n'est plus un intermédiaire avec le Grand Reims qui va réaliser, on va contrôler les travaux, on fait les demandes, mais on n'est plus, on n'est plus décideur complètement sur les travaux qui sont faits dans le village.
Alors évidemment, on vous demande parfois des services un peu personnels, vous demande de régler telle ou telle situation. Il y a un maire l'autre jour qui nous dit, parfois, quand une personne d'un certain âge a des problèmes informatiques, elle veut voir le maire, elle dit « j'arrive pas à faire ça ».
Mais c'est évident, d'autant plus que maintenant, avec l'administration, on n'a plus d'interlocuteur physique, et donc le secrétariat de mairie reste le dernier endroit où on peut venir demander un renseignement, et surtout dans le milieu rural, les personnes âgées n'ont pas forcément Internet. Là, le rôle du secrétaire de mairie, autant que du maire, est très important dans les communes.
C'est là qu'on se rend compte de l'importance de la proximité d'un village, d'un maire, parce que c'est des gens qui verraient personne de l'administration. Si Reims est à 25 km, ils ne vont pas y aller comme ça facilement, si c'est une personne âgée.
Même que le pôle de proximité, les gens n'y vont pas. Les gens n'y vont pas, ça passe, tout passe par la mairie, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on ait gardé ce lien, si vous voulez.
Avec les habitants.
Parce que nous, bah, par exemple, en période de canicule, en période de tout ça, on connaît les habitants, on peut se permettre d'aller les voir, de les conseiller, que forcément, une grande ville ne s'est pas fait.
Alors Franck Bailly, alors il n'y a peut-être pas de projet urgent en cours, mais est-ce qu'il y a quand même un ou deux projets qui se sont terminés, d'autres que vous avez quand même dans vos valises? Il se passe toujours quelque chose quand même dans une commune, si ce n'est pas la voirie, c'est les fleurs, c'est une école, il y a toujours quelque chose.
Mais justement, si vous voulez, comme la communauté urbaine a pris des compétences, ça a permis au conseil de se dégager du temps pour d'autres compétences qui sont tout aussi intéressantes. Je vais vous parler par exemple de la biodiversité. On a énormément travaillé sur la biodiversité du village en plantant des haies, en mettant des arbres, en créant un verger, en créant des mares. Donc on a énormément travaillé dessus. Et ça, on n'aurait peut-être pas eu le temps si on avait dû gérer la totalité des écoles comme c'était avant.
Alors une question peut-être.
Des écoles, par exemple.
Une question, je vais peut-être tomber à côté de la plaque. Quand on n'est pas loin de Reims, surtout avec le Covid, on a pensé à cette période. Il y a des gens qui trouvent que les logements sont chers ou les maisons sont chères à Reims et dans l'agglomération rémoise, mais que peut-être dans un village, est-ce qu'il y a des jeunes ou des personnes qui viennent s'implanter quand même? Il n'y a peut-être pas beaucoup de terre avec les vignes, hein. c'est peut-être difficile.
Il y a très peu de terrain constructible.
Bah oui, c'est sûr.
Il n'y a plus de terrain constructible. C'est presque une volonté du conseil parce que, si vous voulez, c'est bien de garder la typicité du village avec ses belles pierres. Par contre, le petit souci qu'on a, si vous voulez, c'est qu'avec le vignoble, il y a des salariés du vignoble qui sont obligés d'aller habiter à Fismes ou à Reims parce que les loyers sont trop chers, parce que nous, c'est que des maisons individuelles. Et donc, c'est un petit peu dommage, si vous voulez, qu'il y ait ce décalage et qu'en milieu rural, il n'y ait pas des petites structures, justement, pour les jeunes qui démarrent, qui ont des salaires un peu moins élevés, qui puissent avoir des petits logements dans les campagnes.
C'est
le petit regret que j'aurais, vous voyez,
oui,
pour le salarié du vignoble qui démarre.
Oui. Ce qui est intéressant, Franck Bailly, c'est qu'au fond, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'à Cerzy-Éperin, il y fait bon vivre. On imagine, alors on est à la radio, on n'a pas d'image, mais on est dans la vigne, on n'est pas loin de la vallée de l'Arve, on a les vignes, on a vraiment une qualité de vie. Ça aussi, ça n'a pas de prix.
La qualité de vie, c'est indéniable, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, au niveau du conseil municipal.
Alors la dernière question, puisqu'on arrive presque au terme de notre émission, Franck Bailly, c'est évidemment la même question que je pose à chacun pour toute l'année. Après, on changera si on continue cette émission. Êtes-vous un maire heureux? Parce que on entend tout le temps les gens se plaindre. Pas chez les maires, hein, mais souvent, on se dit, oh là 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 là, dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de plaintes que d'encouragement. Vous êtes un maire heureux, finalement. Vous êtes passionné de ce que vous faites.
Je suis passionné. Et puis en plus, si vous voulez, le fait d'être maire m'a permis de faire des rencontres que je ne faisais pas dans le milieu professionnel. Donc, si vous voulez...
Ça ouvre des horizons,
ça c'est indéniable. Après, il ne faut pas faire le mandat de trop. Si vous voulez, deux mandats, je considère que c'est bien. Et puis après, je serais encore plus heureux si on avait la possibilité d'aller plus loin dans nos projets, si vous voulez. Je vais vous citer un exemple. On a l'église qui est vraiment mal en point. On a réussi à la sécuriser. Donc on a fait des échafaudages partout. Mais ça va être un travail de 20 ans peut-être pour refaire une belle église. Ça va jamais assez vite.
On aura l'occasion d'en reparler. Ce que je vous propose, Franck Bailly, c'est de revenir. C'est-à-dire qu'on vous rejoindra. Puis vous, si vous organisez quelque chose, n'hésitez pas à nous joindre. C'est un peu le but de cette émission de proximité. Et merci d'avoir été avec nous. Je sais en plus, puisqu'il est 18h20, c'est l'heure où on peut se rapprocher de l'apéritif. Et qui dit apéritif dit champagne dans votre région. Et comme
dans
je sais
région.
Que vous êtes viticulteur, eh bien, on boit le champagne avec vous, en tout cas. Merci Franck Bailly d'avoir été avec nous. Et à très bientôt
merci
sur RCF.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous deux, messieurs. Tout de suite, le journal régional. « Les titres de ce vendredi 26 janvier. Ce dimanche se tiendra à Cézanne la messe d'admission comme candidat au sacerdoce pour le diocèse de Châlons du séminariste Jean Florin. Témoignage. L'unité d'accueil pédiatrique Enfants en danger des Ardennes au sein de l'hôpital de Sedan a été inaugurée. C'est la troisième en région Grand Est.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce dimanche se tiendra à l'église Saint-Denis de Cézanne la messe d'admission parmi les candidats au sacrement de l'ordre du séminariste haut-marnais Jean Florin. Elle sera présidée par Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, en présence du père Denis Véju, administrateur du diocèse de Châlons. Il s'agit de la première étape pour les séminaristes sur le chemin du sacerdoce, comme nous l'explique le principal concerné, Jean Florin.
Sur, on va dire, les 7 ans d'années où le séminariste se prépare à l'ordination avec les années d'études et formation pastorale, il y a des étapes qui sont à la fois pédagogiques et puis qui préparent le candidat au sacrement de l'ordre. Et donc la première grande étape, c'est cette admission comme candidat au sacerdoce. En fait, c'est un moment où le candidat, donc moi, je recevrai d'une manière, on va dire, officielle l'appel de l'église et de l'évêque. À la fois, ils vont m'appeler en me reconnaissant officiellement candidat pour devenir prêtre, et ils vont me demander si je renouvelle mon engagement pour servir l'Église, pour servir le Christ, et si j'ai envie de poursuivre ma formation. Donc en fait, c'est une manière objective de poser ce cheminement-là que j'ai commencé depuis 3-4 ans. Ça a beaucoup de sens de le vivre à Cézanne, parce que c'était là où j'étais en insertion pastorale toute l'année dernière. J'ai été porté par cette communauté déjà dans la prière, et puis c'est avec eux que j'ai avancé dans ma formation l'année dernière, dans le diocèse aussi. Donc ça a du sens de vivre cette étape avec eux et devant eux.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. La messe aura lieu dimanche, donc à 10h30, à l'église Saint-Denis de Cézanne. Le parcours de Jean Florin est à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Peut-être que les agriculteurs seront toujours mobilisés lundi, en tout cas il le reste ce week-end après des opérations escargots ce vendredi. Peut-être que la circulation sera donc impactée un peu partout en France, mais ce qui est sûr, c'est qu'à Reims, lundi, les transports seront impactés. Les syndicats ont déposé un préavis de grève reconductible pour protester contre la nouvelle offre de tramway lancée le 8 janvier dernier. Un nouvel espace France Service a été inauguré dans la Marne ce matin à Mourmelon-le-Grand. C'est le 24e espace labellisé dans le département. Il y a une dizaine de jours maintenant, était inaugurée l'unité d'accueil pédiatrique Enfants en danger des Ardennes au sein de l'hôpital de Sedan dans l'ancien service de néonatologie du pôle mère-enfant. Il existe à ce jour 66 UAPED en France et 3 en région Grand Est. Cette structure, qui réunit plusieurs professionnels du monde médical, va permettre de recueillir la parole des enfants victimes de violences ou maltraitances en dehors des violences sexuelles pour lesquelles l'enfant sera dirigé vers l'UMJ de Reims dans un milieu sécurisé et de leur offrir un parcours de soins individualisé. Magali Josse, procureur de la République des Ardennes, au micro de RCF.
Je me réjouis de la création de cette structure qui est vraiment un atout pour le département et qui va permettre à la fois d'offrir une prise en charge de qualité, une prise en charge individualisée et dans des locaux, comme vous avez pu le voir lors de la visite inaugurale, adaptés dans leur configuration, dans le choix du mobilier aussi, qui est comparable au dispositif qui existe déjà dans les salles Mélanie. C'est un dispositif, d'ailleurs, cette UAPED, qui est complémentaire aux salles Mélanie, qui sont au nombre de 4 dans le département, 3 en zone gendarmerie et 1 en zone police, d'ailleurs, qui a été très nouvellement inaugurée. Donc vraiment des structures essentielles pour garantir la protection des jeunes victimes et également de permettre aux auteurs d'être identifiés, de pouvoir être pris en charge par l'autorité judiciaire.
Les enfants accueillis seront dirigés vers l'UAPED par l'autorité judiciaire ou l'aide sociale à l'enfance. Après un premier entretien avec un psychologue, l'enfant sera dirigé vers la salle d'audition, une pièce aménagée de manière confortable et accueillante qui ne ressemble ni à une salle d'audition classique ni à une chambre d'hôpital et sera interrogé. Jouxtant cette salle, derrière un miroir sans teint, se trouve une salle d'écoute équipée d'une borne Mélanie et permettant à 2 enquêteurs présents d'enregistrer et filmer l'audition de l'enfant et d'en préserver son authenticité. Thomas Talek, directeur de l'hôpital.
L'UAPED va démarrer son activité en février. Et on va démarrer par une journée par semaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'on monte en compétences. On a la chance d'avoir trouvé un médecin généraliste que je salue, qui est le docteur Pernelet, qui a accepté de prendre cette mission. Elle a dû se former. C'est une mission très, très particulière. Elle a dû se former. Elle est allée se former auprès des équipes de Reims. Et donc, elle va monter progressivement en compétences et pourra recueillir plus d'entretiens d'enfants. Et l'objectif est aussi de le faire par étapes. Je m'explique. Au tout début de cette activité, notre UAPED ne va pas prendre en charge les enfants victimes de violences sexuelles. On va commencer par les violences physiques ou psychologiques. Et dans quelques mois, le docteur Pernelet aura parachevé sa formation. Il pourra ensuite se consacrer aussi à ce type de victimes.
Les enfants victimes de violences étaient jusqu'ici dirigés vers l'unité médico-judiciaire de Reims qui rapporte qu'elle accueillait chaque année près de 200 enfants ardennais victimes de violences physiques ou psychologiques. L'implantation du UAPED face à de tels chiffres prend donc tout son sens. La création de cette structure représente un investissement de 313 000 euros, 160 000 euros reconductibles de l'Agence régionale de santé pour les postes de soignants, 150 000 euros de travaux d'aménagement et 3 000 euros du ministère de la Justice pour la borne d'écoute et d'enregistrement. Enregistrement Mélanie. L'agenda des sports du week-end vous est présenté par notre stagiaire Pierre-Louis Plouvier.
En effet, ce week-end, nous avons un programme sportif assez chargé, notamment basket. Ce soir, le Champagne Basket qui se déplace sur le parquet de Lille à l'occasion de la 17e journée de Pro B. Toujours en basket, les Flammes Carolo posent leurs bagages à Lyon afin d'affronter l'ASVEL ce samedi à 20h dans le cadre de la 7e journée de Ligue féminine de basket. En football, Troyes se déplace à Caen samedi avec un coup d'envoi prévu à 19h dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Toujours en football, ce dimanche à 15h, le stade de Reims reçoit Nantes à l'occasion de la 19e journée de Ligue 2. Du côté des féminines du stade de Reims, elles affronteront le Puy avec un coup d'envoi prévu à 14h30 ce dimanche à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Enfin, en volley, les joueurs de Chaumont se déplacent du côté de Nantes afin de défier l'équipe de Nantes-Rézé en Liga. La rencontre aura lieu ce samedi 27 janvier à 20h également.
Merci Pierre-Louis, l'occasion de vous remercier pour votre passage à RCF Reims Ardennes cette semaine parce que ça y est, votre stage prend fin. Donc merci beaucoup, bonne continuation.
Merci, c'était un plaisir d'être avec vous.
Plaisir partagé par toutes les équipes de la rédaction. Et vous le savez, comme avec les trains, un stagiaire peut en cacher un autre. Tout de suite, la météo avec Elsa Gillot. Rebonsoir Elsa.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Vous l'avez dit dans les couloirs avant de venir faire ce direct, c'est la dernière fois que je vous pose la question. Quelles sont les tendances en Champagne-Ardenne pour ce week-end?
Alors pour ce week-end, en Haute-Marne, des éclaircies seront au rendez-vous avec un mercure qui malheureusement rétrograde entre 0 et 7 degrés. Dans la Marne, le soleil sera présent mais caché par quelques nuages, notamment à Reims. Et un thermomètre qui affichera des températures allant de 1 à 10 degrés. Chez les Ardennais, le mercure sera entre 0 et 10 degrés tout au long du week-end et un soleil assez voilé par les nuages. Dans l'aube, des éclaircies, mais quelques nuages et un thermomètre qui affiche des températures entre 0 et 13 degrés. Vous l'aurez compris, les tendances pour ce week-end en Champagne-Ardenne, c'est du soleil et quelques nuages. Sans oublier que ce week-end, nous fêterons les Angèles et ce dimanche, Saint Thomas d'Aquin.
Eh bien, merci pour ces précisions. On se joint à vous pour ces fêtes et puis on vous remercie pour votre investissement. On vous souhaite bonne continuation parce que ça faisait 2 semaines que vous étiez avec nous, Elsa. Et ça y est, vous reprenez le chemin des cours et de la faculté de lettres modernes lundi matin.
C'est ça.
Mais écoutez, bonne continuation Elsa, merci d'être passée. Les tendances, on espère qu'elles seront un petit peu meilleures parce que le soleil a l'air d'être encore bien caché. Nous, notre soleil, c'est Suzanne qui passe nous faire un petit coucou ce soir. Pas de sujet préparé, Suzanne?
Je vais passer juste après le journal.
Ça, quelle heure d'ailleurs, les 240 secondes?
C'est 19h30, il me semble.
À 19h30, on écoute 240 secondes avec Suzanne Joss. On parle de quoi cette semaine?
Cette semaine, on va parler de sensibilisation à l'écologie.
Très bien, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et l'écologie, c'est finalement en lien avec la nature. Alors on va partir au bord de la forêt de l'Argonne, une église à pans de bois qui trône au milieu du village de Givry en Argonne, créée en 1830 sur l'emplacement d'une ancienne église. L'église Saint-Laurent fait l'objet depuis 2001 de travaux successifs pour son embellissement. Pour en parler, nous avons rencontré Antoine Bourguignon, le maire de Givry en Argonne.
Bonjour, aujourd'hui je vous invite à venir du côté de Givry en Argonne. Givry en Argonne, c'est entre Vitry-le-François Foix et Sainte-Menehould, un village d'un peu moins de 500 habitants où vous découvrirez une église. Et j'ai près de moi Antoine Bourguignon, le maire. Bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir en notre église Saint-Laurent de Givron-l'Argonne.
Cette église, elle est née quand ?
Elle est née en 1830. C'était à l'époque une bâtisse qui a été réalisée pour remplacer une église qui était déjà présente à cet endroit, mais qui était très vétuste et qui avait besoin de réparation et qui était même très exiguë à l'époque pour notre population qui comptait environ 600 habitants. C'est ainsi qu'une église nouvelle fut construite en 1830 et coûta d'ailleurs la somme de 20 200 euros. Et pour couvrir cette somme un petit peu extraordinaire à l'époque, la commune vendit une coupe de bois, nous avons quelques forêts communales, pour 5 500 francs, et reçut un don d'une famille donc assez aisée du village, la famille Blanchin, pour 3 000 francs. Et il y a eu donc une subvention de 5 000 francs du ministre des Affaires ecclésiastiques. Et les vieux matériaux qui ont été donc mis en œuvre ont pu être par la suite revendus. Quelques contribuables ont participé et aussi à son financement. C'était quand même une dépense lourde qui n'était pas forcément des mieux acceptées par les villageois. Mais je crois que la réalisation est donc était extraordinaire pour l'époque, et notamment mis en œuvre donc des vitraux qui sont absolument exceptionnels. Nous avons vécu avec cette église-là jusque dans les années 2000, où des pans de bois apparaissaient à travers un crépi qui commençait à être ancien. Et avec le maire de l'époque, eh bien, nous avons imaginé l'idée de découvrir le crépi pour faire apparaître les pans de bois. Donc nous l'avons fait à l'extérieur et nous avons fait apparaître des pans de bois vraiment magnifiques, mais nous avons poursuivi l'action puisque l'église, on ne s'en rendait pas compte, était entièrement faite de poutres et de charpents de bois. Donc nous avons retiré les simili qui représentaient de la pierre autour des poutres, etc. Nous avons tout mis à nu et nous avons mis en valeur toute la charpente de bois que constituait l'église Saint-Laurent à Givron-l'Argonne.
D'église à pans de bois, il y en a d'autres dans le secteur ?
C'est vrai que nous avons plus l'habitude de les apercevoir dans le sud de la Champagne humide et notamment dans le sud du Vitria. Ici, donc, elle apparaît comme assez remarquable par rapport à ses dimensions et puis à la taille des poutres qui la façonnent. Ce sont des travaux, donc, comme je vous le disais, en 2001, qui ont véritablement visé à regarder comment on était capable, avec toute cette poutre, de les mettre en valeur. Et donc, on s'est fait aider à l'époque donc, de l'église et avec les conseils donc, d'architectes pour dire, voilà, ici, c'est le cœur, on garde un petit peu l'aspect initial et sur toute la partie centrale, eh bien, on met en œuvre des planchers au-dessus des solives, on remet un petit peu de plâtre entre les poutres et on fait apparaître quelque chose donc, qui est quand même assez fantastique. Une église qui mêle à la fois la pierre, à la fois énormément le bois. Trois autels donc composent l'église de Givron-l'Argonne, un autel en pierre sur la nef droite et deux autels en bois, l'un au cœur et l'autre sous la nef gauche. Et c'est l'autel de la nef gauche qui a été restauré en 2001 par un vieil artisan peintre de Triaucourt en Argonne qui a redonné donc un éclat à travers son coup de pâte pour créer artificiellement les aspects de marbre, bien entendu.
Eh bien, merci monsieur le maire, Antoine Bourguignon.
Merci à vous, à bientôt à Givry.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet. L'église Saint-Laurent est ouverte tous les jours de 8h à 18h.
Le 18-19 sur RCF.
C'est le fil rouge tous les vendredis dans le 18-19 en Champagne-Ardenne, la rubrique Parole d'évêque. Aujourd'hui avec Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Il est au micro de Jean-Pierre Benoît.
Alors c'est vrai que vous venez de participer, vous en sortez presque, d'une session sur les nouveaux évêques. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quel apport pour vous-même, pour votre mission et quelle découverte ?
Tout à fait, Jean-Pierre. Je suis rentré de 4 jours de session pour les nouveaux évêques, une session qui se fait tous les ans à Paris, organisée par la CEF, la Conférence des évêques de France, où on rassemble les évêques ordonnés depuis un an. Donc, nous étions 8. C'est un très beau moment Déjà pour se retrouver entre nouveaux, de partager nos difficultés, nos questions, aussi les bonnes pratiques. En particulier, cette fois-ci, nous avions avec nous l'évêque de Pamiers. Donc, dans son diocèse,
il y a eu une tragédie.
Les deux personnes qui ont été tuées à un barrage, donc pendant les manifestations à propos de la cherté de vie agricole. Et nous avons pu, avec lui, prier pour cette situation, parler et prier beaucoup de toutes les préoccupations que ont les agriculteurs aujourd'hui en France.
Alors justement, découverte aussi certainement pour votre mission sur cette session de nouveaux évêques aussi, Monseigneur.
C'était très très utile. Nous avons parlé de thèmes, nous sommes tous des pasteurs, mais nous avons parlé de thèmes qui nous aideront à mieux exercer notre, si on veut appeler ça comme ça, un métier d'évêque. Donc des questions un peu plus techniques, finances, économie, gestion des finances d'un diocèse, des questions de communication, comment entrer dans ce monde de la communication, gestion des abus aussi, bien sûr, avec tous les différentes attentions qu'il y a à avoir, comment un évêque se rapporte aux autres évêques, conférence épiscopale, à la Rome, où se font les décisions, qui peut s'appuyer sur qui. C'était beau de savoir que nous ne sommes pas seuls. On a l'impression parfois d'être un peu isolé dans un diocèse, mais nous ne sommes pas seuls. Et puis, une session que j'ai trouvée très intéressante, mes collègues aussi, c'était une session sur la qualité de vie personnelle de l'évêque. Et donc, tout bêtement, dort-on assez ? Mange-t-on comme il faut? Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on a des amis? Des choses qui semblent évidentes, mais qui sont essentielles pour assurer que le bonhomme, la personne qui a la charge, puisse trouver de l'équilibre et donc être au service des autres.
En tout cas, Monseigneur, on aura l'occasion d'en reparler. Cette semaine a été marquée, après la semaine de prière pour l'unité, qui a été quand même importante, on a beaucoup parlé avec vous, avec l'importance des trois rencontres, les vœux interreligieux avec les communautés protestantes, juives et musulmanes. Ça, c'est important pour vous, Monseigneur.
Oui, peut-être que je vais vous parler des deux, en fait, si je peux.
Voilà, on peut lier les deux.
D'accord. Parce que les vœux... Bon, la semaine de prière pour l'unité de chrétiens, il y a eu trois événements. Il y a eu mercredi dernier au temple protestant, puis à Charleville-Mézières, il y a eu une église catholique avec une prédication protestante, et puis, en conclusion, chez les Claristes Cormontreuil, donc chez les catholiques, avec une prédication de la part du pasteur. Ce qui était très fort, c'est de voir à quel point nous étions nombreux dans les différents moments, et que ce n'est pas simplement un moment de rencontre neutre, c'est l'invitation chez l'autre. Les catholiques allaient chez les protestants chez les catholiques. On découvre comment l'autre prie, où est-ce qu'il prie régulièrement. Et cette année, il y avait très particulièrement une forte présence d'orthodoxes. Il y a plusieurs communautés orthodoxes à Reims, coptes, roumaines, syriaques, pour ne mentionner que les principales. Et nous espérons que ce sera l'occasion pour les années à venir de tisser davantage de liens.
Alors c'est vrai que les vœux interreligieux sont l'occasion aussi de manifester cette force de paix quand même, où on peut espérer ça, dans les conflits actuels. Bien sûr, ça a de l'importance, Monseigneur.
Oui, un des points d'origine de ces vœux, ça a été... on avait essayé avant le Covid, puis après il y a eu le Covid qui a interrompu les choses, mais lors des émeutes de l'été dernier, de 23, des responsables catholiques, protestants, musulmans avaient marché dans les quartiers et s'étaient dit « on doit se retrouver ». Et donc, depuis ce moment-là, tous les 8 du mois, les responsables protestants, catholiques, musulmans et juifs se retrouvent. C'est le 8 du mois parce que la rencontre entre De Gaulle et Adenauer pour signer la paix à Reims s'était faite un 8 juillet.
Donc le 8 juillet 1962.
Exactement. Donc on essaye de rappeler cet événement. L'idée derrière, c'est que on dit souvent que les religions sont cause de conflits. Souvent, on utilise les religions comme alibi pour des conflits qui, en réalité, sont pour d'autres raisons. Et nous voulons montrer que les religions sont un des lieux les plus puissants pour apporter la paix. Et nous espérons, à notre petit niveau, par ces petites rencontres mensuelles, ces liens qui se font entre nous, de construire un réseau de paix ici à Reims, dans les Ardennes.
Monseigneur, vous êtes aussi sur le terrain. On peut évoquer, on n'y vient pas forcément, mais la rencontre à Saint-Vincent, le la Saint-Vincent dans le Champagne du côté de Cumières. Ça, c'était une belle découverte pour vous aussi, le Champagne.
Ah, c'est une très belle découverte d'une réalité du diocèse. J'ai eu la chance d'être invité à Cumières pour la Saint-Vincent. La célébration était belle, c'est une belle tradition. Mais moi, je pense que pour moi, personnellement, j'ai surtout appris à mieux comprendre que vivent les vignerons, les vendangeurs et tout le monde, tous ces différents mondes qui sont impliqués dans la production et la vente du champagne. J'ai pu comprendre des choses toutes simples, mais qui sont un vrai poids pour ce monde. C'est-à-dire, par exemple, la difficulté qu'a été la vendange de 2023, avec la chaleur, avec des conditions de vie difficiles pour les vendangeurs, même des décès. Donc on a affronté ces thèmes, c'est-à-dire grande action de grâce pour la qualité du produit, pour l'attention au lieu, à l'accueil, au lien entre les vignerons, mais aussi comment faire pour que ce monde fasse toujours plus attention à l'humain.
Pourquoi vous rencontrez des confirmants, Monseigneur, et à quel moment dans leur cheminement ?
Bonne question. Vous savez, les confirmants ont une bonne année, un petit peu plus d'une année de préparation pour la confirmation des jeunes. Et il y a un moment, quelques mois avant la confirmation elle-même, que l'évêque les rencontre. Il rencontre l'évêque. Pourquoi ? Bon, bien sûr, c'est l'évêque qui va célébrer la confirmation d'ici quelques mois. Mais c'est aussi pour dire qu'il ne s'agit plus simplement d'une étape faite dans un petit groupe, dans une seule paroisse, mais la rencontre avec l'évêque et l'ouverture à toute l'Église. C'est-à-dire, en recevant la confirmation, nous entrons dans l'Église universelle et plus simplement dans notre Église locale.
Dans la petite minute qui nous reste, Monseigneur, il faut rappeler que dimanche, vous allez célébrer l'admission parmi les candidats au sacrement de l'ordre, Jean Florin, un séminariste de Châlons. C'est un travail qui manifeste l'importance entre diocèses, de votre complémentarité.
Absolument. C'est un séminariste de Châlons, ça devrait être l'évêque de Châlons. Il n'y a pas actuellement d'évêques de Châlons, mais c'est aussi le signe que depuis des années, en fait, sur le plan du travail avec les séminaristes, la formation des séminaristes, mais aussi pour la vie religieuse, parfois aussi pour la pastorale des jeunes, il y a beaucoup de liens entre Reims et Châlons, Reims et Soissons.
C'est l'occasion, peut-être, nos auditrices et auditeurs qui prient pour les séminaristes, de les inviter à le faire, Monseigneur.
Priez dimanche pour Jean Florin, qui se prépare à être prêtre, et prions pour tous nos séminaristes.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Monseigneur Étienne Véteux. Au revoir.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine avec du théâtre, avec la troupe cézannaise des Amis en scène qui propose une nouvelle tournée dans le sud-ouest marnais. Pour nous en parler, la présidente de l'association locale, Josiane Anneau, au micro de notre correspondant RCF Cœur de Champagne, Christian Lanciot.
Bonjour Josiane.
Bonjour Christian.
Avant de nous parler de la pièce, d'ailleurs il ne faudra pas tout dévoiler si on veut que les spectateurs aient de la surprise, parlez-nous un petit peu de votre association.
Eh bien, notre association s'appelle Amis en scène, tout simplement parce que nous étions un groupe d'amis et nous avions envie de jouer ensemble. Voilà. Et ceci depuis 2004.
Dites-moi, ça fait 20 ans, donc ça va être un anniversaire. C'est un anniversaire.
Ah, c'est un anniversaire, 20 ans. Vous imaginez, 20 ans de vie commune. Et voilà, alors tous les ans, nous jouons une pièce. Alors donc, nous avons maintenant 20 pièces à notre tableau.
Dites donc, félicitations, 20 pièces.
Oui.
Et donc, depuis 2004, combien il y a de personnes qui sont encore là ?
Eh bien, encore 4.
Encore 4.
Encore 4.
Donc, toutes les années, ces 4-là ont pratiquement joué.
Oui, pratiquement. Parfois, quelqu'un peut partir, mais sinon, nous sommes là pour maintenir les valeurs de notre association. Et bien sûr, à ce petit groupe s'ajoutent d'autres personnes, parfois qui sont encore là, ou d'autres qui partent suite à un déménagement, une activité professionnelle qui les éloigne.
C'est ce qu'on appelle le turnover, quoi.
Voilà, tout simplement. Et puis nous accueillons aussi des jeunes. Alors, c'est très agréable d'avoir des jeunes dans notre groupe. Néanmoins, dès qu'ils partent faire des études, on les perd un petit peu. En moyenne, nous sommes une dizaine, 8, 10. Cette année, sur scène, nous sommes 11.
Écoutez, c'est bien. Donc, sur 20 pièces, on peut dire qu'il y a environ eu 200 acteurs qui ont...
Voilà.
Mais d'abord, vous êtes bien sûr une association culturelle et qui dure, comme vous dites, depuis 20 ans. Et alors, en dehors de cette pièce de théâtre annuelle, vous avez d'autres activités ?
Eh bien, selon les demandes, nous participons à des lectures à la médiathèque. Nous avons fait des sketchs pour les journées du patrimoine. Et nous allons très prochainement, par exemple, faire des sketchs au moment de mars bleu, fin mars ou début avril.
Alors oui, mars bleu, alors, c'est un petit peu le pendant de octobre rose. Alors c'est quoi exactement alors ?
Eh bien c'est tout ce qui tourne autour du cancer colorectal.
Écoutez, vous voyez, vous me l'avez appris, je pense que des auditeurs et auditrices vont également l'apprendre. Alors donc vous parliez de cette pièce, alors vous commencez à répéter quand alors ?
Alors, on répète toute l'année. À vrai dire, on a une démarche particulière, c'est-à-dire que nous cherchons tous ensemble une pièce. Alors donc, il y a des lectures, des choix qui n'est pas toujours facile. Et dès septembre, c'est parti. Alors, une soirée, on répète. Et très vite, très vite, on ajoute une deuxième et à partir d'octobre, on ajoute une demi-journée, souvent dans le samedi ou le dimanche.
Donc, on peut dire que vous avez pratiquement trois répétitions hebdomadaires.
Oui. Si on veut que la pièce soit prête.
Avec, bien sûr, une assiduité complète de tous les acteurs.
Avec une assiduité complète, bien sûr, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle, etc. Mais on arrive, on y arrive.
Alors dites-moi, pour la petite histoire, là, quand vous avez dit que vous essayez de trouver une pièce, c'est voté démocratiquement pour trouver la pièce ?
Absolument, absolument. Donc il y a des lectures et puis ensuite, deux, trois pièces sont sélectionnées. Et petit à petit, on élimine et il en reste une. Et voilà, elle est choisie, on démarre. Et on démarre notre pièce et nous sommes là aidés. Et on a un metteur en scène, Jackie Biville, qui a toujours plein d'idées, parfois trop, puisque... Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très engagé dans la troupe.
On peut dire qu'il est exceptionnel.
Exceptionnel. Il est là pour la mise en scène, il est là pour les décors, il s'occupe des costumes, et le maquillage, incroyable.
Avec tout le temps suffisamment d'humour pour mettre une bonne ambiance.
Toujours de l'humour.
Bien, alors, on va quand même parler un peu de la pièce, alors.
Oui,
hein.
Oui.
Alors, ça reste entre nous.
Ça reste entre nous.
Alors, donc, ça reste entre nous parce que c'est le titre de la pièce.
C'est le titre de la pièce. C'est une pièce de Pascaline Thérien.
Pascaline Thérien.
Voilà.
Alors, vous nous racontez un petit peu l'histoire, mais pas
un
trop, quand même.
Peu,
pas trop, quand même. Hein. Voilà. Pas trop.
Alors, c'est une pièce comique.
Voilà. Donc, une comédie.
Une comédie. Alors, c'est un couple, hein, donc Liliane, la femme, elle en a marre. Ça fait des mois que son mari, Patrick, qui est maire de sa commune, la délaisse, l'oublie un peu, il est toujours à la mairie. Voilà. Et donc, le nœud de l'histoire, c'est qu'elle a 50 ans et elle pensait qui lui offrirait un voyage aux Seychelles.
Peut-être qu'il avait fait une promesse.
Il lui avait fait une promesse, bien sûr. Mais ça ne se réalise pas comme elle avait prévu. Elle a quand même trois bonnes copines. Et avec ses copines, elle décide, elle monte un projet pour récupérer de l'argent et partir aux Seychelles. Tant pis pour Patrick. Alors, tout ne se passe pas, bien sûr, comme prévu. Hein. Et je n'en dis pas plus.
Ah ben bien sûr, il ne faut pas en dire plus, sinon les auditeurs et auditrices qui ont envie de venir ne viendraient pas.
Ça reste entre nous, ce jouera ce soir, donc le rendez-vous c'est dans 1h30 à 20h30 dans la salle des fêtes d'Étoges, puis à Conantre le samedi 3 février à 20h30 et dimanche 4 février à 15h dans la salle des fêtes. Voilà pour le programme complet, ainsi se referme le 18-19 en Champagne. Ce vendredi, on revient dès lundi 18h10 sans nos stagiaires, en tout cas pas ceux-là, il y en aura d'autres certainement qui nous rejoindront la semaine prochaine. Vous êtes très vite remplacé, hein, très vite oublié. Le roi est mort, vive le roi.
Oui, c'est ça.
Merci Elsa, bonne continuation et puis bon cours à partir de lundi.
Merci à vous.
Merci Pierre-Louis, pareil, lundi chemin des cours au collège de Vitry-les-Reims.
Exactement.
Eh bien, bon courage pour tout ça. Suzanne, vous restez fidèle à RCF. Lundi, c'est le chemin des cours à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Mais on vous retrouve d'ici quelques minutes, dans une demi-heure maintenant, pour 240 secondes autour de l'écologie.
Tout à fait.
Bonne soirée, merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, l'information nationale avec le réseau de RCF.